On y va là?
Ouais, vas-y.
Allez, commence?
Vas-y.
Bon.
Yes, Orléans Massif!
Au croisement de la Beauce et de la Sologne, Orléans est une ville où il fait bon vivre.
Comment va mon illustre patient?
Radio Campus, 88.3.
Arrête, non!
Ça s'anime tout d'un coup, d'habitude y'a rien, c'est tout gris.
Musique, soleil, esprit festif et peut-être même une orgie dans la boue.
Très drôle.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. Autour de cette table, j'ai avec moi Ludo qui nous parlera de la loi sur l'immigration finalement adoptée mardi et de ses effets importants dans le champ politique mais pas que. De mon côté, je vous parlerai des nouvelles affaires de violences sexistes et sexuelles ainsi que de leur médiatisation dans la presse et la télévision. Chris, lui, nous parlera de l'importance de l'entourage pendant les périodes de festivités qui approchent à grands pas. Et on va continuer l'émission avec un peu plus de légèreté. Antoine nous fera le plaisir de vous faire découvrir les origines de Noël. Et enfin, comme d'habitude, comme tous les jeudis, nous aurons le jeu de Nico pour faire agrandir votre discographie. Et enfin, pour clôturer, il sera temps, à la fin de cette émission, de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous. Vous avez bien entendu, de nouveaux sujets seront mis sur la table. Soyez attentifs parce que ça va débuter sans plus attendre. Et pour commencer cette émission, Ludo, tu veux nous parler de ce sujet brûlant qu'est l'adoption de la loi immigration qui fait énormément de controverses et de débats. Dis-nous-en un peu plus.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on parle de la grosse actualité de la semaine. C'est le projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin qui a finalement été adopté par l'Assemblée nationale avec le soutien de la droite et de l'extrême droite ce mardi 19 décembre. Le projet de loi avait été refusé dans un premier temps par l'Assemblée nationale avant d'être remanié par la commission mixte paritaire. Le camp présidentiel semble s'être manifestement couché face aux revendications du camp de la droite. L'extrême droite jubile et avance une victoire idéologique selon ses termes, tandis que la majorité présidentielle en ressort profondément fracturée.
Mais que contient ce projet de loi pour faire autant parler?
Premièrement, le texte est considéré comme plus sévère et même néfaste, notamment sur certaines mesures comme celle de la caution retour pour les étudiants étrangers et qui pourrait nuire significativement à l'attractivité de l'enseignement supérieur français et ses relations diplomatiques selon les chefs d'établissement de certaines grandes universités, notamment par exemple la Sorbonne. Dans le même temps, les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, dont HEC par exemple, montent aussi au créneau et dénoncent les conséquences économiques de ce texte, un texte qui menace gravement leur compétitivité internationale et pousse à faire une croix sur l'apport des talents. Même au sein du camp macroniste, le projet divise, puisque, comme le montre le refus de certains députés, comme Sacha Houlier, président de la commission des lois, ou encore la récente démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, afin de manifester son désaccord profond.
On parle beaucoup également de la constitutionnalité des textes. Qu'en est-il?
Effectivement, l'inconstitutionnalité du texte est également invoquée sur de nombreuses mesures. Des quotas seront par exemple fixés par le Parlement, une mesure qui porterait atteinte au droit d'asile, garanti par la Constitution. Le regroupement familial est également durci, puisqu'il faudra désormais vivre en France depuis 24 mois et non 18. Posséder une assurance maladie et de ressources suffisantes, on ne sait pas trop ce que veut dire ce terme, ainsi que d'autres conditions qui seraient elles aussi anticonstitutionnelles, selon l'aveu même de la Première ministre et la présidente de l'Assemblée nationale. De plus, certaines mesures pourraient vous aussi vous affecter. Par exemple, dans le cadre d'un mariage avec une personne étrangère, il ne pourra devenir français que s'il ne valide pas un certain niveau de français, ce qui, encore une fois, pose des questions sur la notion de préférence nationale, un thème cher à l'extrême droite qu'on retrouvait déjà dans les programmes de Jean-Marie Le Pen et qui se retrouve aujourd'hui dans cette loi immigration.
Et concernant les autres mesures?
Alors, pour citer quelques mesures également sévères, être étranger en situation irrégulière sera dorénavant un délit passible d'une amende de 3 740 €. Pour pouvoir prétendre aux APL, il faudra justifier de 3 mois de présence en France pour ceux qui y travaillent et 5 ans pour ceux qui n'y travaillent pas. Cela ne concerne pas les étudiants internationaux pour le coup. Le droit du sol ne sera plus automatique et l'enfant, bien que né en France, devra en faire la demande à 18 ans s'il est né de parents étrangers. Donc là encore, on retrouve ici la préférence nationale. La déchéance de nationalité pour les binationaux ayant porté atteinte aux forces de l'ordre a aussi été inscrite et fait polémique au vu de la quantité importante de contentieux existants sur les violences policières et leur traitement. Le seul point obtenu par le camp présidentiel concerne l'assouplissement des titres de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension comme le bâtiment, la restauration, l'aide à la personne. Et ils pourront désormais déposer leur demande sans passer par leur patron qui sera donc étudié par le préfet au cas par cas. Le gouvernement, donc sans majorité présidentielle à l'Assemblée, semble être alors en porte-à-faux et dans l'incapacité de gouverner dans une Ve République où justement le besoin de majorité est clé pour s'imposer. L'absence de ligne politique claire du gouvernement qui pendule politiquement remet en cause son bon fonctionnement, comme en témoigne ce projet, ou encore les nombreux 49.3, donc 22, de la Première Ministre, et interroge sur un remaniement.
Merci Ludo pour ta chronique. Je pose la question autour de cette table. Que pensez-vous donc de l'effet médiatique que cette loi a eu depuis son adoption, et même bien avant, quand il y a eu la motion de rejet préalable de la loi qui avait été la semaine dernière?
Je trouve que déjà c'est un peu mal parti, parce que quand on voit que cette loi elle a été faite par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, entre temps c'était décembre 2022 qu'ils ont parlé de faire cette loi, et entre temps il y a eu la réforme des retraites, Dussopt est complètement cuit, il a complètement disparu. Donc je trouve qu'il a perdu un peu de son poids dans cette réforme, parce qu'il devait représenter un peu le côté gauche de cette réforme, et Darmanin plus le côté droite. Le côté médiatique là, c'est pour comment je pourrais dire, c'est on en entend beaucoup parler, mais à voir. Je me suis pas trop penché dans les petites lignes, dans les grandes lignes du projet, donc je pourrais pas trop donner mon avis.
Alors pour ma part, je trouve que c'est un véritable scandale. Non, l'intégralité de la loi me pose problème, mais c'est avant tout la constitutionnalité de la loi qui est vraiment problématique. En effet, les lois qui ont été votées il y a quelques jours sont vraiment des lois qui visent à réduire en fait les valeurs constitutionnelles de la République, et c'est là que fondamentalement ça me pose problème. Quand par exemple Darmanin dit qu'il vient d'une région où 30% de la population, de sa population vote à gauche, il se représente, il sait de quoi la gauche a besoin, et ce besoin de sécurité, alors oui, il est existant, il y a vraiment une thématique sur la sécurité, mais parvenir à faire un texte aussi à droite, voire d'extrême droite, est véritablement scandaleux, pour ma part, hein, bien évidemment. Donc voilà, tout se posera. Moi, j'espère vraiment que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel prendront les décisions qui s'imposent pour abroger un maximum.
Même Gérald Darmanin l'avait dit mardi que apparemment, voilà, certains de ces textes, enfin certains de ces articles pouvaient ne pas passer au Conseil constitutionnel. Donc même lui, c'est un aveu de.
Pour c'est un aveu d'échec aussi.
C'est ça, un aveu dans le sens où certains de ces articles peut-être ne pourraient pas passer et ne seraient pas constitutionnels au sens juridique du terme. Ludo, tu avais quelque chose à nous.
Ouais, mais en fait, tu parlais de l'aspect médiatique, et effectivement, je trouve ça très intéressant parce que on l'a vu récemment. Donc, il y a Elisabeth Borne qui est venue sur le plateau de France Inter, il me semble. Il y a Emmanuel Macron hier soir qui a fait un dîner dans l'émission C'est à vous à l'Élysée. Donc, et rien que là, on voit dans la mise en scène qui est hyper intéressante, où il est un peu en grande pompe, il prend une part assez importante du débat, et on voit aussi bien le président que la Première Ministre se perdre un petit peu dans des figures de rhétorique, finalement, pour essayer de justifier, pour dire « mais non, mais nous, c'est pas eux, notre stratégie, ça va être de marcher sur leur plate-bande pour mieux leur couper l'herbe sous le pied », mais au final, ce qui compte, c'est que ce sont des lois qui sont dans le programme de l'extrême droite qui passent. Donc que ce soit le gouvernement ou l'extrême droite qui le fait, au final la conséquence est plus ou moins la même. Et après chacun
jugera la
stratégie. Je pense qu'ils
ont aussi été pris de court, que la motion de censure était adoptée à l'Assemblée nationale, qui pensait que ça allait sûrement passer parce que ça se joue à 3 ou 5 voix près, je crois, il me semble, le premier
c'est
vote.
C'est assez léger. Je pense
qu'ils pensaient que ça allait passer du premier coup, et que la commission paritaire les a un peu pris de court. ça leur a un peu coupé l'air sous le pied.
Ils ont dû concéder, ils ont dû énormément concéder.
Et du coup, ils avaient peut-être pas prévu ce cas de figure-là, ce scénario-là, de se dire il va y avoir une commission paritaire. On va sûrement devoir faire des concessions ou donner d'autres choses.
Si, parce que rien ne les obligeait à mettre le texte en commission paritaire mixte.
Oui, mais dans ce que je veux dire, ils pensaient que ça allait passer du premier coup à l'Assemblée nationale du 3 ou 4 mois après, et qu'ils n'avaient pas pris ce scénario en compte.
Ça faisait déjà un an que la loi elle était un petit peu dans les poches, on ne savait pas trop en préparation. Voilà, il essaie de tâter un peu le terrain, le ministre de l'Intérieur essaie de tâter un peu le terrain. Donc là, ce moment de rejet, ça a été vraiment une défaite.
Il partait confiance parce que.
Pour lui. Il a même présenté sa démission au président qui a refusé. Voilà, on voit vraiment que c'était vraiment un vrai échec politique de sa part. Et là, le fait que cette loi ait été en fait, finalement adoptée, en fait, finalement, c'est un peu revenu. Et il a un peu sauvé, en tout cas, son poste et sa légitimité aussi.
Moi, pour ma part, ce qui me pose problème, c'est véritablement qu'on ait pu faire voter des lois qui sont d'ores et déjà, tout le monde le sait, que c'est anticonstitutionnel. Mmh. C'est ça qui me pose véritablement problème.
Oui, en plus, il y a eu un aveu en plus de la Première ministre. Donc c'est ça,
faire voter
des
lois inconstitutionnelles, c'est un échec.
Merci à tous pour vos réactions et vos avis. On va poursuivre en musique avant de revenir avec un sujet sur les nouveaux cas médiatiques d'affaires de violences sexistes et sexuelles que je vous ai préparé. À tout de suite.
Et place à Barry Can Swing avec son titre Thunder.
Merci à tous de votre écoute. On est bien sûr Radio Pulsar et aujourd'hui je vais vous parler donc de mon sujet. C'est donc la minimisation des violences sexistes et sexuelles dans l'espace médiatique. Donc depuis ce mouvement MeToo, l'affluence d'accusations d'harcèlement ou d'agressions portées envers les femmes ne cesse donc de se révéler. Et personne n'est épargné par ce phénomène. qui touche aussi bien les personnes inconnues comme vous et moi que celles ayant vaguement une popularité jusqu'à des personnalités connues internationalement. La position de force et de pouvoir que peuvent jouir en particulier les hommes populaires et célèbres est sûrement une aggravation pour ces femmes victimes qui craignent des répercussions sur leur vie si elles se mettaient à parler. Alors certaines décident avec courage de porter plainte en se rappelant que, par leur genre, elles ont été victimes de cette prétendue supériorité de ces hommes sur elles. Cet ascendant que ces hommes leur ont fait subir sans leur consentement montre que la volonté d'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore réelle. Alors comment se matérialise ce sexisme-là ? Par exemple, via des harcèlements, des viols, des agressions sexuelles qu'on jargonne par des VSS, V pour violence, S pour sexiste et l'autre S pour sexuel. Tous ces actes, sont des volontés d'un contrôle sur le corps féminin. Si une affaire de ce type est rendue publique par un témoignage et concerne un homme connu, souvent on assiste à une médiatisation parfois très importante de ce témoignage et à de vives réactions. Alors je me suis posé la question, pourquoi l'espace médiatique tend à minimiser les violences sexistes et sexuelles ? Des exemples, il y en a beaucoup. Des hommes célèbres qui en apparence ne laissaient rien voir jusqu'au jour où des médias partagent la plainte d'une ou de plusieurs femmes contre eux. On a des exemples, des centaines d'exemples. Les plus récents sont les plaintes déposées à l'encontre de l'ancien présentateur PPDA qui est depuis ce mardi mis en examen pour viol. Récemment aussi le cas de Gérard Depardieu, comédien internationalement connu, extrêmement populaire en France. Il est visé pour plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols. Ces deux hommes donc occupaient une place de choix dans leur propre sphère et possédaient une grande légitimité, un dans le journalisme et l'autre dans le cinéma. Et depuis quelque temps, on voit apparaître de la part de ces deux hommes une minimisation des actes portés contre eux. De leur côté, ils nient toute accusation. Le procédé médiatique est en marche pour décrédibiliser les témoignages de ces femmes. La présence de la famille ou de l'entourage du potentiel agresseur à la télé ou dans la presse joue un rôle majeur. Leurs discours servent à légitimer l'agresseur en le montrant comme un bon père de famille. Il n'est pas un monstre, c'est un simple séducteur, etc. etc. Cette méthode permet en premier temps donc de redorer l'image de l'homme et par le même temps de criminaliser la victime qui est donc qu'une menteuse, une femme avide d'argent, etc. Donc, le reportage de complément d'enquête sur Gérard Depardieu sorti début décembre met bien en lumière la démarche de rejet envers ce que l'on peut reprocher à ces hommes connus. Le comédien, durant tout le reportage, ne se questionne pas sur la gravité de ses actes, car il sait, et comme tous les autres le savent, qu'en tant qu'hommes, ils seront toujours soutenus et protégés par leurs compères masculins. Comme un boys band, ils s'accrochent à leurs privilèges dans un système encore profondément défavorisant pour les femmes qui font face à des vagues de soutien en faveur de l'accusé grâce à la médiatisation de l'affaire, mais aussi une remise en cause de leurs témoignages qui sont sans cesse minimisés. Là se pose la question de pourquoi ne pas mettre en avant la présomption de culpabilité quand beaucoup prônent celle de l'innocence pour couvrir leurs agresseurs et leurs violeurs. Voilà, c'était la fin de ma chronique. Qu'est-ce que vous, autour de vous, vous pensez au niveau de ces affaires qui arrivent, qui se médiatisent très fortement, qui prennent un espace assez important? On avait vu, peut-être pas autant que la loi, par exemple, immigration, mais en tout cas, par exemple, le cas de Gérard Depardieu, c'est vraiment, depuis quelques semaines, on en parle beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la télé ou la presse, ça prend vraiment une place assez majeure. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que, que ces affaires-là prennent une place, prennent une médiatisation en tout cas importante ?
Moi, je veux rebondir par rapport à ça. C'est qu'hier, lors de l'intervention d'Emmanuel Macron sur les chaînes publiques, il a notamment parlé du cas Gérard Depardieu avec le fait de conserver ou pas la Légion d'honneur. Voilà, à ce titre, Emmanuel Macron a largement protégé Gérard Depardieu en disant que ce n'était pas à lui.
C'était une chasse à l'homme.
Une véritable chasse à l'homme avec des images qui ne le mettent pas forcément en valeur, etc. Mais en tout cas, pour lui, cela ne suffit pas. Cela n'est pas assez pour lui retirer cette Légion d'honneur. Je trouve ça véritablement scandaleux, à titre personnel. Les images parlent d'elles-mêmes. Et je suis très content que, justement, il y ait de plus en plus d'images qui puissent dénoncer ces actes-là, que les médias ne couvrent plus et, ces actes-là, et bien au contraire, attaquent justement tous ceux qui sont vraiment les agresseurs et qui continuent à agresser au quotidien.
Et on peut poser plus largement la question de la légitimité, de la Légion d'honneur aussi, de la pourquoi la donner, à qui la donner, pourquoi l'enlever, etc. Ça pose vraiment de vraies problématiques là-dessus. Est-ce qu'elle a encore une valeur aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des personnes qui sont visées pour des cas d'agression, des cas de qui peuvent être problématiques, ou en tout cas, en termes juridiques, qui peuvent avoir des problèmes avec la justice? À quoi sert cette Légion d'honneur? Et quelle est son utilité dans l'espace, en tout cas. Mais est-ce que vous avez autre chose, vous, de votre côté?
Pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que oui, que ça prenne une part importante de médiatisation, je trouve ça bien, parce que ça pourra peut-être enlever ce sentiment de toute puissance que les grands peuvent avoir en se disant j'occupe un poste important, ou je suis une personnalité influente et connue. Je peux me permettre de faire tout ce que je veux, ça ne sera pas, je serai quand même protégé. Et là, on voit que ce système il est en train de s'écrouler, parce que les médias reprennent les plaintes des femmes qui les accusent d'agressions sexuelles, de viols et autres. Et moi, je trouve ça bien, parce que ça va mettre fin à ce sentiment de toute puissance que les hommes peuvent avoir en haut. Et c'est bien, parce que du coup, ça peut permettre de mettre en place, pourquoi pas, une nouvelle législation, de libérer encore plus la parole de certaines femmes qui doivent se dire « Ouais, mais si je parle, ça se trouve, je ne vais pas être écoutée, ou ça ne va pas fonctionner. » Donc ça peut aussi donner une certaine confiance à des femmes qui se sentent oppressées de se libérer de leur parole.
Moi, je trouve que c'est important aussi, évidemment. Après, c'est la manière dont on le fait, parce que, par exemple, dans le cas de Gérard Depardieu, c'est plus de la médiatisation, mais qui ne va pas être forcément très, on va dire, dans le sens éducative. Enfin, ça va toujours être dans le débat de pour ou contre, ou de dans le fait de d'alléger un peu les paroles des personnes accusées. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est au lieu d'avoir peut-être un peu d'honnêteté intellectuelle, un peu d'esprit critique, et essayer de prendre l'affaire un petit peu au sérieux, et de dire que c'est intolérable, on va toujours essayer de chercher à un peu à légitimiser ça, ou à adoucir un peu l'image. Et c'est ça que je trouve personnellement un peu triste. Et par exemple, on l'a vu avec Gérard Depardieu, Emmanuel Macron qui dit qu'il se méfie du contexte, etc. Après, sur la question de la Légion d'honneur, là, je pense que c'est un autre débat, parce que déjà, dans quel cas déjà retire-t-on la Légion d'honneur? C'est aussi ça qu'il faut se poser la question. Je crois que c'est quand une personne a été condamnée pénalement. Donc après, je ne crois pas que Gérard Depardieu a été condamné pénalement. Et aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres gens avant lui qui ont été...
Il y a vraiment des femmes qui ont posé des recours judiciaires.
Il n'a pas été condamné pénalement
encore.
Non, pas encore.
Mais bien sûr, ça va prendre du temps, ça va se faire. Mm-hmm. Et puis je pense que maintenant on est tous d'accord sur qui est réellement Depardieu. Voilà, après la justice tranchera,
c'est pas à moi de faire. Mais oui, c'est à la justice de se trancher, c'est pas aux médias ou à la juridiction de faire ça.
Enfin, la Légion d'honneur, pour le coup, c'est le comité qui la remet, qui peut décider ou pas de retirer la Légion d'honneur à la personne. Axer le débat sur ça, par exemple, sur la Légion d'honneur, au lieu de parler réellement de la gravité des faits.
On lui a déjà retiré la Légion d'honneur.
Oui, de camoufler
un peu partout. Le sujet principal, c'est est-ce qu'il doit garder ou pas sa Légion d'honneur. C'est le sujet principal, c'est est-ce qu'il a commis ses actes et s'il va être condamné ou pas.
Exactement. Donc à chaque fois, on trouve des petites manières comme ça de le faire, et je trouve ça juste déprimant. Enfin, il suffit de regarder des émissions comme TPMP et voir que c'est juste des débats, mais sans fond. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans les médias français, je trouve. Et voilà.
En tout cas, merci à tous. On passe avec toi, Chris, avec ta chronique. Tu voudrais nous parler de l'invisibilisation de nombreux cas d'isolement pendant les périodes de festivités, en particulier de Noël.
Eh oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'amitié. Dans cette période de fin d'année, alors que tout le monde prépare les fêtes de Noël et que nous sommes tous naturellement tournés vers le fait de revoir notre famille proche et que nous nous réjouissons déjà des moments heureux que nous allons passer tous ensemble. Eh bien, pour ma part, malgré cette joie de revoir ma famille, je ne peux cependant m'empêcher de penser à celles et ceux qui seront seuls pour les fêtes de Noël. Et je ne suis pas le seul, car en effet, l'IFOP vient de sortir les chiffres de son enquête pour l'année 2023 sur le sujet. Et cela pour le compte de l'association Don Solidaire. L'objectif est de faire ressortir les chiffres de la solitude lors de cette période de Noël. Et d'après l'enquête, c'est près de 15% des Françaises et Français qui s'apprêtent à passer Noël en solitaire. Un pourcentage en baisse par rapport à 2021, où le chiffre était de 21%, pour celles et ceux qui prévoyaient de passer un réveillon de Noël sans amis ni famille. Un taux plus important qui s'expliquait en partie par le contexte sanitaire plus compliqué en 2021. Mais ce chiffre reste le même par rapport à l'année 2022. Toujours selon le sondage de l'IFOP, 20% des Français confient appréhender le fait de passer Noël seul, ce qui questionne sur la santé mentale de la population lors de cette période. Alors, si pour certains cette solitude est choisie, pour d'autres, elle est plus difficile à supporter. Pour celle choisie, je lisais hier un entretien d'une jeune femme qui était en pleine rupture amoureuse, une certaine Manon, 29 ans, qui n'avait aucune envie de passer les fêtes en famille et a choisi de voyager seule pour la première fois de sa vie. Je cite « J'avais envie de partir seule depuis un moment et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais », confie celle qui est partie en Norvège. Ou encore, certains ne veulent plus supporter, ne veulent plus prendre sur eux et retrouver ceux qu'ils ont soigneusement évités tout le long de l'année. Je cite. Je n'aime pas vraiment la période des fêtes. C'est un moment de l'année chargé de stress et d'hypocrisie. Je vois des gens qui n'ont pas pris de nouvelles depuis des mois et qui débarquent en souriant. Et c'est toujours difficile de contenter tout le monde. Je pense qu'on devrait arrêter de mettre Noël sur un piédestal, confie Clara, 33 ans. Mais pour ceux qui subissent la solitude, les causes sont nombreuses. Entre ceux qui travaillent, ceux qui sont trop éloignés géographiquement pour retrouver leurs proches, les célibataires qui voient leurs amis fêter Noël en couple, ou encore ceux qu'un conflit familial éloigne de leurs parents, frères ou sœurs. La période pour eux peut être un moment difficile durant lequel le sentiment d'isolement se fait plus présent. Voici le témoignage d'Agathe, 27 ans, faisant un doctorat au Canada et n'ayant pas les moyens de rentrer pour les fêtes de fin d'année. Mes parents ont un budget très serré et c'est déjà une chance immense de pouvoir faire mes études ici grâce à eux, raconte-t-elle. Je crois que c'est davantage la pression sociale autour de cette fête qui a accentué le sentiment de solitude. C'était déprimant de passer Noël seul parce que les autres me rappelaient que ce n'était pas normal, estime-t-elle. L'isolement est particulièrement marqué chez les plus de 60 ans. Selon l'association Les Petits Frères des Pauvres, en 2022, quelque 530 000 personnes âgées se trouvent en situation de mort sociale. Et alors que plus d'un tiers des aînés ressentent un sentiment de solitude, 2 millions d'entre eux sont isolés des cercles familiaux et amicaux. En cette année de très forte inflation, les politiques antisociales, de discrimination, de précarisation des plus fragiles, menées par le gouvernement macroniste et ses alliés de droite et d'extrême droite, font que les situations de précarité augmentent fortement et isolent de plus en plus les Français. Et voici les chiffres de la dernière enquête IFOP, qui informe que la crainte de ne pas pouvoir offrir de cadeaux est ainsi la peur la plus associée aux fêtes de Noël, 37%. Devant le fait d'être seul, 20%, de ne pas pouvoir s'offrir un bon repas, 22%, de devoir travailler pendant les fêtes de Noël, soit 14%, et de devoir passer du temps avec sa famille, 12%. Ou encore de ne pas recevoir de cadeaux, qui, lui, est à 11%. Signe d'un budget sous pression, la crainte de ne pas pouvoir offrir de cadeaux se répand de plus en plus depuis 2021. En 2021, on était à 30%, en 2022 à 34% et aujourd'hui, on est à 37%. Bien que les cadeaux ne soient pas la chose la plus importante de Noël, je vous incite à tendre la main, à faire part de solidarité à celles et ceux qui sont seuls. Ce n'est pas le cadeau le plus important, ni la qualité du repas qui sont les choses les plus importantes. Le plus important à Noël, c'est de passer un bon moment, peu importe ceux qui nous entourent, que ce soit la famille, les amis, les membres des associations ou des inconnus qui vous tendent la main. Alors, je vous souhaite de passer un bon moment, des bonnes fêtes, et je vous invite à faire preuve de solidarité dans ces moments difficiles qui touchent l'intégralité, ou en tout cas la majorité des Français.
Merci à toi, Chris, pour ta chronique sur l'isolement pendant les périodes de Noël. Moi, ce qui m'a vraiment étonnée dans ta chronique, c'était que vraiment la période d'isolement la plus forte, c'était pendant Noël. C'était à cette période, c'est pas pendant l'été, c'est pas pendant certaines vacances, c'est vraiment seulement, enfin en tout cas majoritairement à Noël que cet isolement se fait sentir. J'avais même entendu dans un de tes témoignages que tu avais parlé que c'était même socialement compliqué voilà, de savoir qu'on allait être seul pendant Noël. C'était une pression sociale en plus qu'on n'avait pas d'habitude le reste de l'année. Donc c'était quelque chose qui m'avait vraiment étonnée dans ta chronique.
Oui, c'est vraiment le fait que les fêtes de Noël hein, ou les fêtes de fin d'année se passent en famille ou entre amis. Et c'est rentré dans une norme sociale qui impose à ceux qui n'ont rien ou n'ont pas de cercle proche, un cercle familial proche, de devoir se trouver en sentiment en situation de solitude. Et c'est vraiment... Ça questionne et moi, ça me fait mal pour eux.
En tout cas, merci à tous. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique d'Antoine qui va nous parler des origines de Noël. Donc, on suit le thème. À tout de suite.
Et place à Cloud Management, album Transparente.
On est de retour dans l'émission Écoute ta fac. Il est actuellement 12h30 et on vous donne un peu plus de légèreté dans cette émission avec la chronique d'Antoine. Antoine, tu as décidé de nous raconter l'histoire de Noël à quelques jours de cette fête bien connue.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de Noël et de ses origines. Bon, qui dit Noël dit cadeaux sous le sapin, repas interminables en famille et qui finissent tard le soir, mais aussi la magie de Noël quand on est enfant. Mais là, je vais vous parler des vraies origines de Noël. Vous savez d'où vient cette fête ?
Pour moi, c'est un rite païen.
Ok.
Aucune idée.
De Finlande.
Donc, ces dernières années, Noël est vu comme une fête commerciale, mais son histoire est bien plus complexe et ancienne que ça. Dans la culture populaire, Noël est une fête religieuse qui marque la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il a même fallu plusieurs siècles pour qu'on s'intéresse à la date de naissance du Christ. Le choix de la date est attribué à Constantin, empereur romain qui se convertit au christianisme au 4e siècle de notre ère et qui souhaite que tout son peuple se convertisse aussi. Le 25 décembre apparaît alors comme stratégique car les Romains étaient déjà familiers des fêtes à cette date dédiées à la déesse du soleil. Si Noël est une fête païenne, c'est parce que ses origines remontent à avant la période chrétienne de l'Europe. En effet, la période du 25 décembre a d'abord été associée au culte de Mithra et plus généralement au retour de la lumière et de la lutte contre l'hiver. En effet, le solstice d'hiver marque le retour des jours qui rallongent par rapport à la durée de la nuit. Un phénomène naturel que les civilisations pré-chrétiennes avaient remarqué car leur rythme de vie se calait sur celui du soleil. Durant les fêtes païennes, Noël possédait un autre nom, celui de Yule, que l'on doit aux Vikings. Il s'agissait de hâter la renaissance de la nature et de guetter les premiers signes que les prochaines récoltes seraient abondantes en se montrant généreux envers les dieux. Mais cette fête prend un autre tournant avec les Romains. En effet, ils avaient déjà des traditions religieuses autour du solstice d'hiver avant que soit instaurée la fête de Noël. Mais ce sont également eux qui ont décidé de fêter Noël en tant que jour de naissance du Christ. Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Ce n'est qu'à partir du 2e siècle après notre ère que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. La date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome afin de christianiser les rites issus de la culture populaire. Avec l'expansion du christianisme, la célébration de Noël s'est de plus en plus introduite dans les mœurs des Européens. La fête de Noël s'est répandue progressivement en Europe et a été célébrée dès le 5e siècle en Irlande, le 7e siècle en Angleterre, le 8e siècle en Allemagne. Et ce n'est qu'au 18e et 19e siècle que l'échange des cadeaux est devenu une coutume, symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus. Puis, il fallut choisir un mot pour désigner Noël. Les origines du mot Noël sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des couleurs différentes. Noël en France, Natale en Italie, Natal au Portugal ou Navidad en Espagne. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin Natalis Deis, qui signifie jour de naissance. D'autres, à la rigueur, prétendent que Noël est gaulois. Le terme Noël aurait des étymologies gauloises qui viendraient de deux mots, nio, qui veut dire nouveau, et elle, qui veut dire soleil. Mais le terme n'est pas utilisé dans tous les pays, et certains pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne parlent de messe du Christ, donc Merry Christmas. De même, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par le mot Jul, qui s'écrit comme le rappeur marseillais. Donc voilà, juste avant les fêtes, vous pourrez étaler votre science en plein milieu du repas, et j'espère que contrairement à moi, vous êtes organisé et que vous ne finirez pas par faire vos cadeaux de Noël au dernier moment.
Merci Antoine pour ta chronique. On passera au jeu de Nico qui nous a préparé encore plein de surprises, mais ça sera juste après un petit instant musique. À tout de suite.
Avec Sombatter et son titre Finale Joy.
Let's go!
Vous êtes bien sur l'émission Écoute à Fac sur Radio Campus Orléans. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, c'est le jeu de Nico. Et tu nous as préparé un petit jeu sur le thème du cinéma, c'est bien ça ?
Et oui, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un jeu sur l'année des 23 au cinéma. J'ai même préparé un petit générique qui sent bon Noël, vous allez voir.
Donc ce sera les films sur l'année 2023, c'est bien ça ?
C'est ça.
J'ai peur.
Et oui, du coup, ce sera un jeu sur les films de l'année 2023. Avec comme principe, je vous diffuse trois sons. Ça peut être une musique, la musique du film, ou alors une phrase d'un autre film qui n'a rien à voir, mais qui va donner un indice sur le film qu'il faut trouver. Alors ce sont que des films qui ont marqué l'année 2023, qui ont été au top du box office. C'est des blockbusters, on va dire, pour que les gens puissent jouer chez eux et tout le monde peut jouer ensemble. Donc ça risque d'être un peu facile pour certains.
Attends, va y avoir une
trois sons.
Trois sons. Donc
il faut trouver le film qui est associé.
Une phrase, okay. Un musique.
Non,
de
ça
film.
Peut être tout, ça peut être tout.
Ah ok. Oui, ok. Bah,
vous êtes prêts? Et on répond à la fin des trois sons. Go. Alors ?
Barbie ?
C'est Barbie ?
Eh oui, Barbie, parce que ouais. Vous expliquez les sons. Le premier, poupée de cire, poupée de son. Deuxième, c'est une musique qui est dans le film Barbie. J'ai pas mis celle que tout le monde connaît de Dolly, j'ai mis une musique d'Avamax que personne connaissait, peut-être forcément. Et derrière, Barbie.
La troisième, elle était.
La troisième était explicite.
Souvent, il y a des musiques qui sont explicites, vous allez voir, qui vont dire clairement le titre, vous allez voir. Prochain, vous êtes prêts ?
Ouais.
Attention.
Mario.
Mais pourquoi
la voiture
Mario
Kart. La voiture par Mario Kart. La musique italienne, c'est Mario et italien.
Moi, j'étais en train de dire le film Mario Kart. Je me suis dit.
Il y a le film Mario qui est.
Il y a du Mario Kart dans le film.
Le film Mario qui a fini premier au box-office français.
Mario, c'est sorti cette année.
Non, c'est Mario Bros. Pas Mario Kart.
Non, Mario. Le film Mario, c'est Mario. Dedans, il y a des voitures, il y a tout dedans.
Chris,
c'est magnifique.
Et voilà. Prêt, vous êtes prêt pour le troisième ?
Allez,
ça part.
Ça monte. Oula.
C'est une bombe, ça! C'est une bombe, non! Petit Jésus, si toi tu t'en sors, peux-tu transmettre à Marie-Joëlle qu'aujourd'hui était le plus beau jour de ma vie, jusqu'à l'arrivée infortuite d'une bombe?
Alors
Oppenheimer.
Oppenheimer, ouais.
Bah oui, c'est ça, oui.
Ah, la première musique. Ouais.
Bam, boum.
Pas du tout.
Après, la deuxième partie, c'était un extrait de la tour infernale.
Ouais, c'est un bruit de bombe. Et attends, la première, c'était quoi ?
Ça fait bim, bam, boum. Combien de bombes ?
Waouh ! Pas du tout.
C'est travaillé quand même, attends.
C'est vrai.
Il y a l'imagination. C'est
oui, attends. Prochaine. Alors, ouais, je sais pas si c'est plus facile, vous allez voir. Un pasito para adelante, María. Dos, tres. Un pasito para atrás. Dos, tres. Un pasito para adelante, María. Dos, tres. Un pasito para atrás.
un pour tous et tous pour un. Alors, j'ai écrit une petite chanson à ce sujet.
Alors ?
C'est la seconde partie du film Les Trois Mousquetaires ?
La première et la seconde, les deux sont sortis en 2023, ouais.
Ah bon ?
Ouais.
Ah bah voilà.
Bah ouais, parce que le premier, c'était Windows.
Il est pas encore sorti ?
Si, il est sorti cette année, il y a deux semaines. Green. Le deuxième.
Ah, mais il est sorti cette semaine.
Oui, mais il y a le premier qui est sorti en mars ou en février.
Ah, j'hésite à le dire parce que pour moi, la première partie était sortie en 2021 ou 2022.
Il était en 2023,
oui, pour moi, c'était 2022.
Pour moi, c'était 2022, tu vois.
Il y a le deuxième qui est sorti.
On s'est trompé.
Mais voilà. Le premier, c'était Undo 13, Trois Mousquetaires.
Ah, oui,
le deuxième,
oui,
c'était Mickey
moi,
et le Mousquetaire, c'était un morceau d'extrait. Et le troisième, c'est la musique officielle du film.
Ok.
Okay.
Voilà, ouais. On part sur un cinquième.
Allez.
Allez, let's go.
Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Bah, si je devais...
Bah, c'est Astérix. Ah,
c'est Astérix. 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 Astérix.
Bah, oui, parce que...
Mais j'ai pas compris la première.
Ouais, expliquez-moi la première.
Parce qu'ils ont publié, ils ont remis à l'affiche le film, mais en version longue.
Non, parce qu'il y a le film de Guillaume Canet qui est sorti en début d'année.
Oui, bah oui, mais c'est ce qu'on dit.
La première, t'as Angèle qui joue dedans, dans le film.
Ah, ok, d'accord.
C'est oui,
ah,
oui, oui. Ah, la deuxième, c'est la.
Wow. Je me dis à tout moment, c'est une chanteuse qui a été dans un film à un moment. Mais là,
oui, c'est ça.
Ah,
oui.
Hey, je rôle de Falbala.
Oui, il y a Falbala dedans. C'est travaillé, c'est travaillé. Attends, il n'y a pas de l'amateurisme. Hein. Oh.
Allez, on attend la suite. On attend.
Ouais, alors. Ouais. Ouais, peut-être, oui. J'allais voir la suite. Prochain. Attention. Alors,
c'est Charlie la chocolaterie.
Non, c'est Wonka.
Bah, oui, c'est Wonka.
C'est Wonka.
Bah,
oui.
C'est Wonka. Charlie la chocolaterie de base quand même. T'as quand même
le
dit.
Non, mais c'est Wonka.
T'as compris le but du jeu ?
Oui, film sorti en 2023.
Film sorti en 2023.
Ok, j'ai pas entendu.
En fait, le premier indice c'était du tout manger le chocolat, la musique. La deuxième c'était. C'était quoi le deuxième déjà ?
Il est pas incarné par Timothée Chalamet ?
Si.
C'est une biographie de Willy Wonka.
Non, c'est en fait, ça parle comment Willy Wonka est devenu.
Comment il est devenu chocolat, d'accord, toute son histoire.
La deuxième, voilà. C'était J'aime les bonbons du film Hop. C'est un film sorti en 2012 avec un lapin de Pâques. Elle parle des bonbons. Et le troisième, c'est la musique des Oompa Loompa par rapport au Oompa Loompa qui jouait par. Qui jouait dedans par Hugh Grant.
Voilà.
Et on passera à un dernier ?
Allez, un dernier.
Un petit dernier, attention.
Napoléon ?
Napoléon, mais pourquoi le 2?
Le 2 parce que dans l'extrait de la compagnie créole,
il y a, il dit, y a le mot Napoléon.
Il dit Napoléon, t'as pas entendu, vous avez pas entendu?
Oui, Napoléon.
Oui, oui. Il y a juste le mot
il
Napoléon.
Il fait Cendrillon, Napoléon.
Ah, voilà. Très bien.
Et le premier, c'était la guerre australienne, où on voit tout dans le film. Et derrière Marseille, voilà, bah vous avez.
On a réussi.
Non, mais tout le monde a
Est-ce qu'il y a un vainqueur?
La mission est passée.
Alors, Nico,
ça m'embête de le dire. Il y a quand même 3 points pour une personne. Ouais, ça m'embête, c'est Ludo, c'est Chris.
Ah voilà, ouais, je préfère.
Il a voulu sa victoire.
Mais c'est le seul jeu que t'as gagné en 2023, donc ça va.
Absolument pas.
Ah, si. Attends, mais comment tu comptes les points? Tu les comptes si quelqu'un dit la réponse ou juste.
Ah oui, c'est le premier qui dit la réponse.
Ah, mais c'est abusé.
Ah, le premier
moi je l'ai plein de fois la réponse.
Ah oui, moi
j'ai
dit.
Ah, mais toi t'as dit 2. Il t'a dit 1,
mais parfois il a dit pas ça.
C'est des points pour un jeu, calmez-vous.
Oui, c'est un jeu.
Je veux gagner.
Sinon, à la fin.
Je vais gagner tous les jeudis. Merci Nico. En tout cas, je te promets qu'on va bien se reposer pendant les vacances pour revenir encore plus fort pour son nouveau jeu. Je vous laisse avec de la vraie musique cette fois-ci. On revient dans quelques minutes pour la recommandation de la semaine. À tout de suite.
Et on va s'écouter Sam Morton avec son titre Hard Dancing Back the Door.
£5 in your left hand and make a wish. Whatever you do, don't wish for money. Never wish for money, never wish for money. I won't rob you. I just want to eat and sleep tonight. God bless you. Never wish for money.
c'est bientôt la fin de cette émission, mais c'est avant tout la roco de la semaine de nos chroniqueurs. Et je me tourne vers vous tous. Quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez-vous nous faire partager? Est-ce que quelqu'un veut commencer?
Ouais, alors moi c'est un livre que j'ai lu il y a un petit peu de temps, mais je pense qu'il est pas mal, dans le contexte actuel ou non d'ailleurs. C'est un livre de l'historien Christian Grau. Pardon. L'ouvrage s'appelle « Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS ». Et en fait, en s'intéressant à différents profils d'SS, il va essayer de décortiquer comment ces personnes-là, qui sont des intellectuels, qui ont fait des grandes études, et qui sont des personnes éduquées, comment ont pu-elles adhérer au nazisme et surtout s'engager dans la SS, puis finir par organiser ce processus d'extermination quand même de 20 millions de personnes basé sur des bases raciales. Et donc il va étudier toute cette histoire-là, toute cette histoire un peu des mentalités psychologiques, du contexte à travers ces différents profils, et c'est super super intéressant. C'est un peu compliqué à lire parce que c'est quand même un ouvrage historique, donc évidemment tu as toute une méthode à respecter. Mais justement pour essayer de comprendre, justement, si vous êtes déjà posé la question comment des hommes ont pu en arriver à faire ça, il analyse tout ça, alors que c'était justement parfois des personnes qui n'étaient pas du tout adhérents au nazisme ni quoi que ce soit, juste des personnes qui avaient des peurs, des craintes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre, ou du moins à lire les interviews de cet auteur, parce que c'est vachement intéressant. Voilà.
Je poursuis dans ta lignée, Ludo. Je vous recommande aussi un livre qui s'appelle « La révolte d'un camp d'extermination Treblinka », qui a été écrit par Jean-François Steiner en 1994. Le camp d'extermination Treblinka, il était situé à l'est de la Pologne pendant donc la Seconde Guerre mondiale, et ça a été un des premiers camps à se révolter contre les nazis qui occupaient ce camp-là. Donc il est très intéressant au niveau historiographique, et comprendre un petit peu mieux la théorie et en tout cas la pratique, surtout de l'idée nazie pendant cette période via ces camps d'extermination. Donc je vous recommande fortement. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une recommandation?
Oui, moi, dans le même thème, c'est juste avant les périodes de Noël, c'est la bonne ambiance.
Ah, c'est clair.
Le film Le garçon au pyjama rayé.
Ah oui.
Tous dans le même thème.
Super. Là, c'est la bonne humeur là en ce moment.
Ouais, la joie de vivre.
Donc c'est l'histoire d'une famille allemande, et le père est dirigeant d'un camp de concentration, et son petit-fils va se lier d'amitié avec un des prisonniers de ces camps de concentration, et la fin est absolument tragique. Donc moi j'ai bien aimé ce film.
C'est un super film.
Voilà.
Je ne l'ai pas lu. Moi... Je ne l'ai pas vu. Alors moi, je vais vous parler d'un livre, d'une autobiographie aux éditions Griffes. C'est Black Hawk, chef de guerre. Donc ça se passe en 1982. C'est donc des PRL. Et sur les hauteurs du mont Mississippi, il y a Black Hawk, qui est un chef amérindien des tribus Sauk, qui refuse d'abandonner les terres aux colons américains. Il se lance dans une grande guerre brutale mais éphémère avant d'être contraint à capituler. Et en fait, le plus important pour lui, ça va vraiment être de défendre sa culture, sa population. Et on va le voir évoluer à travers la connaissance d'une nouvelle civilisation blanche et européenne. Mmh. Et moi, j'ai adoré personnellement, parce que c'est un héros.
Moi j'en ai un, si vous voulez.
Ouais, ah,
c'est la saison finale de The Crown qui est sortie jeudi dernier.
Spoilez-nous.
Je vais pas spoiler. Mais ce qui est intéressant, là, il y a 6 épisodes, et chaque épisode c'est consacré à une ou deux personnes à chaque fois. Et c'est vraiment. Alors le final, je vais pas dire ce que c'est parce que certains l'ont pas vu. Mais j'ai fait lâcher ma larme, c'était vraiment très émouvant. Et vraiment, c'est une série qui... La fin de la série, je trouve que c'est la meilleure partie de toute la série. Je vous conseille de voir sur la vie de la famille royale en Angleterre. Et ça parle vraiment de la... on parle des années 90, la mort de Diana, jusqu'à 2005. Et vraiment, c'est chouette.
Donc c'est assez récent, finalement.
C'est ça. Bon, ils vont pas jusqu'à la mort...
Ça se rapproche de d'aujourd'hui.
Ils vont pas jusqu'à le mariage de William, ou le mariage Harry, ou la mort de la reine, mais vraiment, c'est très beau.
J'ai beau ne pas avoir fini la série, je dis merci à Barbara, qui est en studio, de m'avoir spoilé la fin. de la série en republiant une vidéo sur TikTok et je suis tombé dessus.
Et
elle m'a spoil la fin de la saison.
En vrai, c'est mouvant.
Donc voilà.
C'est
mouvant. Ne spoilez jamais les séries à vos amis. J'ai quitté en comprenant que j'étais en train de me faire spoil, donc merci Barbara.
En tout cas, merci à tous. C'est la fin de cette émission et on se retrouve avec la même équipe jeudi dans 2 semaines. Et ne manquez pas l'émission Écoute à Fac tous les mardis, mercredis et jeudis de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.
Et passez une bonne fête.
Oui, passez bonne fête
à tous et à toutes.
Bonne nouvelle
à l'équipe aussi en régie.
Et ouais, à bonne fête à vous. Ouais.
Bonne fête.
8 et 8 et 3. 8 et 2, 3. 8 et 8 et 3.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je vais avoir l'honneur de vous faire écouter ce soir votre radio préférée.
Radio Campus 80.